the day of the Lord's salvation.
RFI.
Today is the day of salvation. Today,
grand reportage.
Dans quelques jours, la Cour suprême devrait rendre une décision qui fera basculer le droit à l'avortement aux États-Unis. Laisser les différents États choisir seuls leur législation en matière d'IVG. Dans la foulée, plus de la moitié du pays devrait interdire ou restreindre très fortement l'accès à l'avortement. Épicentre de ce séisme pour les droits des Américaines, un petit État très conservateur du sud-est du pays. Avortement aux États-Unis, le Mississippi au cœur de la bataille. C'est un grand reportage de Marie Normand.
Il est à peine 7 heures du matin. Sous une pluie battante, Coleman Boyd s'époumonne déjà devant la Jackson Women's Health Organization. La clinique, installée dans un quartier résidentiel de Jackson, capitale du Mississippi, est mieux connue sous le nom de Maison Rose, en référence à ses murs Rose Chewing-Gum. C'est la toute dernière clinique où il est possible d'avorter au Mississippi, jusqu'à 16 semaines de grossesse. Coleman Boyd rêve de l'avoir fermée. Ce médecin urgentiste est là quasiment tous les jours avec quelques-uns de ses 12 enfants qui jouent sous un parapluie à côté de lui sur le trottoir. Ce matin, il est juste là un peu plus tôt que d'habitude, remarque Derenda Hancock. Elle le connaît bien. Avec son gilet arc-en-ciel, elle se tient chaque jour en face de ses militants anti-avortement. Elle coordonne l'équipe de défense de cette clinique, protégée comme une forteresse.
Notre première fonction, c'est de conduire les patientes de leur voiture jusqu'à la porte de la clinique pour les protéger le plus possible des gens sur le trottoir qui leur crient dessus. Parfois, on monte un peu la musique pour tenter de noyer leurs cris.
Les patientes commencent justement à arriver. Des véhicules immatriculés au Texas, en Alabama, en Louisiane, où les lois sont pour l'heure plus restrictives et les cliniques surchargées. Coleman Boyd a sorti son mégaphone pour tenter d'attirer leur attention et se faire entendre aussi du personnel de la clinique. Plus aucun médecin du Mississippi ne travaille ici, c'est trop dangereux. Tous viennent d'autres États pour quelques jours et leur identité est soigneusement tenue secrète pour des questions de sécurité. Shannon Brewer, la directrice de la clinique, vient de garer sa voiture. Les manifestants viennent d'apprendre qu'elle a perdu, il y a quelques jours, l'un de ses fils, âgé d'une vingtaine d'années.
Et ton fils qui est mort, est-ce que tu vas le rejoindre? Est-ce que tu vas te réconcilier avec Dieu? Parce que toi aussi, tu vas mourir bientôt. Tu dois te repentir.
Derenda Hancock l'avoue. Elle a eu beaucoup de mal ce matin à ne pas en venir aux mains. Pourtant, se faire insulter et traiter de sorcière, c'est son quotidien depuis un peu plus de 9 ans. Elle nous emmène dans une maison un peu plus loin dans la rue, où elle et ses collègues peuvent se reposer à l'abri des regards. Pour Derenda, la meilleure protection est de savoir qui sont ses protestataires. Lorsqu'elle n'est pas devant la clinique, elle passe le plus clair de son temps à faire des recherches sur eux. Continuer à les confronter, à répondre à leurs accusations, c'est pour elle une question de principe.
En restant silencieux, on leur a déroulé le tapis rouge. Si on les avait confrontés, la tête haute, depuis les années 80 et 90, peut-être qu'on n'en serait pas là.
Pour l'heure, l'avortement est toujours légal au Mississippi. Mais dans quelques jours, une décision de la Cour suprême pourrait changer la donne.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
La plus haute juridiction américaine a décidé de se saisir d'une affaire venue tout droit du Mississippi.
We will hear argument this morning in case 19-1392, Dobbs versus Jackson Women's Health.
C'est la Maison Rose qui a attaqué en justice une loi votée en 2018 par l'État du Mississippi. Elle visait à interdire l'avortement après 15 semaines de grossesse, contre 20 aujourd'hui.
This court should overrule Roe and Casey and uphold the state's law.
Lors de l'audience qui s'est tenue en décembre, l'avocat général du Mississippi a demandé à la Cour suprême de rendre aux États le droit de décider. Il plaide pour l'annulation de 2 arrêts, notamment l'arrêt Roe v. Wade de 1973 qui garantit le droit constitutionnel des Américaines à avorter. Si la Cour lui donne raison, le Mississippi fera de l'avortement un crime puni de 10 ans de prison. La loi est déjà votée. Un désastre, estime Derenda Hancock.
Un Mississippi sans l'arrêt Roe versus Wade serait synonyme de grossesse forcée ou d'une hausse de la mortalité chez les femmes. Parce que si tu veux vraiment avorter, tu vas boire du détergent, tu vas te jeter du haut des escaliers, tu vas faire ce qu'il faut.
Derenda nous montre ce qu'elle appelle le mur de la honte. Un placard où sont collectionnés les documents que les militants anti-avortement tentent de glisser aux patientes devant la clinique. La plupart montrent des nourrissons, d'autres comparent l'avortement à l'esclavage, à l'Holocauste, ou évoquent les risques supposés des avortements pour la santé des femmes. Le pasteur David Lane, lui, distribue de petites pochettes où sont inscrits, entre autres, des versets du Nouveau Testament. Autour de lui, il a disposé de grandes images de fœtus avortés.
Rain, snow, sleet, hail, whatever.
Il est là par tous les temps, explique-t-il, depuis 38 ans.
On tue des bébés ici. On a le cœur brisé par le meurtre de ces petits bébés. Alors nous, on vient ici pour essayer de convaincre le plus de filles possible.
David Lane plaide pour une interdiction quasi totale de l'avortement.
Pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, non. On ne tue pas les victimes de ces actes. La seule exception serait la mise en danger de la vie de la mère, certifiée par un docteur. Je dirais même deux docteurs différents. On se demande pourquoi 19 enfants ont été tués par balle hier au Texas. Eh bien parce que ces gens-là soutiennent l'avortement. Ce sont aussi des meurtres ici. L'endroit le plus sûr pour un enfant est censé être le ventre de sa mère. Maintenant, c'est l'endroit le plus dangereux.
Depuis les années 80, à défaut de pouvoir interdire l'avortement, les États conservateurs comme le Mississippi encadrent de façon drastique le travail des cliniques, de la largeur des couloirs à la distance nécessaire entre l'établissement et une école. Avant de pouvoir avorter, les patientes ont l'obligation de réaliser une échographie et de se présenter à deux consultations à 24 heures d'intervalle. Deux passages donc devant les militants anti-avortement. Amy Nobles a poussé les portes de la Maison Rose en 2013. Elle est l'une des rares à accepter de témoigner.
It was for me traumatizing.
Pour moi, c'était une expérience traumatisante. J'ai mis presque un an pour me remettre de mon avortement. Je peux toujours entendre leur voix dans ma tête, qui me traite de tueuse de bébé, de meurtrière. J'étais jeune, naïve. Je n'étais pas beaucoup allée à l'école et une partie de moi les a crues. Donc je me suis sentie incroyablement coupable.
Aujourd'hui, Amy Nobles s'est reconstruite.
I was able to secure housing,
un logement, un emploi stable, un diplôme. Si elle s'inquiète de la décision de la Cour suprême, c'est avant tout pour les autres.
Je suis privilégiée maintenant. Je pense à celles au Mississippi qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui gagnent le salaire minimum, $7,25 de l'heure, et qui n'ont peut-être même pas les moyens d'acheter une pilule du lendemain si leur contraceptif habituel ne marche pas. C'est à elles que je pense.
Selon l'Institut Guttmacher, les femmes du Mississippi parcourent en moyenne 100 km aujourd'hui pour trouver une clinique qui pratique des avortements. Si la Cour suprême renverse l'arrêt Roe versus Wade, la clinique la plus proche se trouverait à plus de 800 km. S.J. Ashcraft est attablé à la terrasse d'un café à deux rues de la Maison Rose. Même ici, elle entend les manifestants crier dans ce quartier au demeurant très calme. Dans cet îlot progressiste au Mississippi, de nombreux commerçants soutiennent la clinique, au risque d'être victimes de campagnes de boycott.
J'ai une copine qui est diabétique de type 1. Si elle tombe enceinte sans que ce soit programmé et suivi par son docteur, cette grossesse peut lui coûter la vie. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Et si moi je me fais violer et que je tombe enceinte, pourquoi serais-je forcée de porter cet enfant? Ça fait vraiment peur. La seule explication que je vois, c'est que nous sommes dans la ceinture de la Bible.
Dans cet état rural, La religion est omniprésente. Plus de 8 personnes sur 10 déclarent qu'elle tient une place très importante dans leur vie. La religion majoritaire est le protestantisme évangélique. Parler d'avortement est tabou, le défendre encore plus. Bobby, 44 ans, s'arrête quelques instants.
En tant que futur père qui a choisi l'avortement dans le passé, j'avais 25 ans à l'époque, c'est la seule chose qui me fait craindre le jugement de Dieu. Et le jour de ma mort, j'aurai beaucoup de mal à m'expliquer devant lui.
Sa compagne repousse d'abord notre micro avant de jeter rapidement un regard autour d'elle et de se lancer.
Je pense que tout le monde a le droit de prendre ses décisions médicales, qu'elles soient médicales ou pas d'ailleurs. Vous avez le droit à cette intimité.
Pour mieux comprendre, nous nous rendons à Starkville, à 2 heures de Jackson. Le long de l'autoroute, des panneaux publicitaires affichent des messages anti-avortement. D'autres invitent les conducteurs à se repentir. Kimberly Kelly est sociologue et spécialiste du genre à l'Université d'État du Mississippi.
La religion imprègne la vie quotidienne au Mississippi. Il est habituel que les hommes politiques fassent explicitement référence au christianisme conservateur pour justifier leurs objectifs et leurs politiques. Et cela fonctionne très bien sur le plan électoral, particulièrement auprès des hommes blancs.
Si l'accès à l'avortement s'est considérablement effrité, rien n'est fait, selon elle, pour prévenir ces grossesses non désirées.
Nous avons une population qui n'a pas suffisamment accès aux services de santé, notamment à la contraception, ni à une éducation sexuelle convenable. Elle est aussi confrontée à un taux de pauvreté important, trois facteurs qui favorisent les grossesses non planifiées. Donc, au Mississippi, c'est dur de ne pas tomber enceinte. Si vous tombez enceinte, vous ne pouvez pas avorter. Une fois le bébé né, vous n'aurez pas d'aide pour le nourrir, pour l'envoyer à l'école ou pour lui assurer un logement propre et sûr. Vous êtes condamné si vous avortez et condamné si vous n'avortez pas.
Il n'y a donc plus qu'une seule clinique au Mississippi, mais 37 centres de crise en cas de grossesse, 37 CPC, tenus par des organisations chrétiennes évangéliques. Ces centres en pleine expansion sont destinés à dissuader les femmes enceintes d'avorter.
Les centres de grossesse sont des noms qui sonnent comme les noms de cliniques traditionnelles. Ils utilisent le mot « santé » ou « choix ». Cela vise à attirer l'attention des femmes à la recherche d'une clinique pour avorter. Et ça marche plutôt bien. Beaucoup vont dans ces centres sans se rendre compte que ces gens ont un grand intérêt à ce que vous preniez une décision très spécifique.
L'un de ces centres a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes.
Je m'appelle Susan Kramer-Jones et je suis la directrice du centre de ressources pour les femmes à Gulfport, dans le Mississippi.
Elle regrette que ces centres aient mauvaise réputation. Pour elle, ils représentent simplement une alternative. Premier arrêt pour celle qui pousse la porte, l'espace médical.
Tout ce que nous faisons ici est gratuit, des tests de grossesse gratuits, des échographies gratuites, tout ce dont elles ont besoin. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de leur parler, de leur expliquer ce que nous pouvons faire pour elles et les ressources dont elles peuvent bénéficier dans le but de garder leur enfant. Si elles choisissent de le livrer à l'adoption, nous travaillons ici avec des agences d'adoption formidables.
Oh, this is the ultrasound machine. So many times.
Bien souvent, on dit aux femmes que ce n'est pas vraiment un bébé. Cet appareil à ultrasons est essentiel pour qu'elles voient le bébé et qu'elles entendent battre son cœur. Cela leur donne la possibilité de vraiment réfléchir à ce qu'elles sont en train de faire. Parce que parfois, quand vous vivez une situation de crise, vous voulez juste vous débarrasser du problème.
Au bout du couloir, une salle remplie de vêtements et d'équipements pour enfants.
They come and they shop.
Mais pour les acheter, les femmes doivent participer à des cours de parentalité dispensés par ces établissements.
Elles sont récompensées de 7 dollars ou 7 points à chaque fois qu'elles viennent.
Et pour celles qui choisiraient malgré tout d'avorter, Susan Kramer-Jones soutient que les portes du centre resteront ouvertes. Devant la clinique de Jackson, les documents distribués par les militants anti-avortement portent souvent le logo de Pro-Life Mississippi. Nous avons rendez-vous avec la présidente de cette puissante organisation qui se bat contre l'avortement depuis plus de 40 ans. Loranite explique avoir été enthousiaste à la lecture du document interne à la Cour suprême qui a fuité dans la presse, mais elle préfère ne pas crier victoire trop vite face à ce qu'elle appelle l'industrie de l'avortement.
Ma génération a toujours connu l'avortement comme quelque chose de légal et d'accessible. C'est un grand traumatisme psychologique. On dit à ces femmes qu'elles ne peuvent pas y arriver, qu'elles ne peuvent pas être mères, qu'elles doivent se faire avorter pour réussir dans la vie. Elles peuvent aussi prendre la décision de nous laisser les aider. En tant que société, on peut le faire.
Cette infirmière, aujourd'hui femme au foyer, dit espérer que le Mississippi pourra bientôt légiférer comme il l'entend et qu'il ne sera plus soumis au bon vouloir de la côte Est ou de la côte Ouest. Une question de culture, dit-elle.
Le Mississippi a 3 millions d'habitants, ce qui correspond à une grosse ville de Californie. On ne peut pas faire des lois là-bas pour gouverner un état rural comme le nôtre.
Selon l'Institut Guttmacher, 26 États, soit la moitié des États-Unis, interdiront ou limiteront fortement l'accès à l'avortement si la Cour suprême les y autorise. Une scission du pays en deux, qui pour Laura Knight est peut-être nécessaire. Elle dit espérer que les États comme le Mississippi pourront peu à peu éclairer les autres. Ces groupes anti-avortement sont très bien organisés et financés. Leur maillage est particulièrement fin. Pro-Life Mississippi bénéficie de relais dans les universités, les lycées, parfois les collèges. Ces militants essaiment les festivals, comme ce jour-là, celui de Waveland, au bord du golfe du Mexique. Exposition de voitures de collection, tour de chant d'un sosie d'Elvis. Ce festival annuel, le Festival des fruits de mer, attire des milliers de visiteurs. L'occasion de toucher un nouveau public, explique Marie Pelletier, l'une des responsables locales de Pro-Life Mississippi.
Ici, on rencontre des anti-avortements, des pro-avortements, des personnes qui hésitent et d'autres qui ne connaissent rien au sujet. On leur montre qu'on ne fait pas que manifester devant les cliniques, mais qu'on vient aussi à leur rencontre.
Sur son stand, des livres, des documents et de petits poupons à manipuler. Différents modèles censés représenter l'évolution d'un fœtus entre 12 et 26 semaines de grossesse.
Des enfants de 3 ans vont arriver, se saisir du modèle 12 semaines et dire « Oh, regarde le tout petit bébé !» Et ça attire ici les adultes qui sont avec eux.
Lynn est passée devant le stand il y a quelques minutes. Interrompre sa grossesse ne devrait être possible, selon elle, qu'en cas de viol ou d'inceste.
Si tu ne veux pas d'enfant, tu prends des précautions. Si c'est juste que tu t'es fait mettre en cloque par ton copain, eh bien, t'as joué, t'as perdu.
Contrairement à la Géorgie, un autre état du Sud-Est où les démocrates gagnent du terrain, le Mississippi est entièrement acquis aux républicains. Même les candidats progressistes ne défendent pas ouvertement le droit à l'avortement. Ce serait un suicide électoral. Devant la Maison Rose, Derenda Hancock sourit tristement. Si la clinique qu'elle aide à protéger depuis près de 10 ans ferme ses portes, elle continuera à défendre l'existence d'autres établissements ailleurs dans le pays.
Tous les manifestants qui sont ici vont aller là-bas. Ils vont essayer de mettre un terme à l'IVG dans le reste des États-Unis.
Elle avoue qu'elle ne passera pas le reste de sa vie au Mississippi.
Il est grand temps d'y aller. On a essayé, ça a été une bataille. Ce n'est pas juste l'avortement, beaucoup de choses ne vont pas ici. Peut-être que bientôt tout le pays sera comme ça, mais le Mississippi est une complète théocratie.
Avortement aux États-Unis, le Mississippi au cœur de la bataille. Un grand reportage de Marie Normand, réalisation Pauline Leduc.